l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Montauban 93.3.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Présence midi en direct jusqu'à 13h. Nous sommes très heureux de vous accompagner durant votre pause déjeuner. Dans un instant, eh bien, nous prendrons la direction de Bayonne pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne et Lescar et Oloron. Pour cela, je serai en duplex avec la responsable de la communication pour le diocèse, c'est Nathalie Chambon. Et puis deux jours de festivités ont été organisés autour de la culture occitane. C'était les 29 et 30 mai dernier. Ça s'est passé près de Tarbes, à Ibos. Et on écoutera dans cette émission le reportage d'Androse Jankovic qui était sur place le week-end dernier. Et puis nous prendrons également un peu d'altitude, direction les Pyrénées, avec le regard des écrivains sur les Pyrénées, avec Anne Lasser. Cette semaine, elle a sélectionné cet auteur, le Duc de Montpensier. Ce sera aux alentours de 12h45. Mais pour le moment, place à l'actualité régionale, avec les titres qui seront développés à 12h30, titres qui seront présentés maintenant par Sacha Boudet Pouplier, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, était en déplacement dans le Tarn-et-Garonne et alerte sur les difficultés économiques persistantes du monde agricole. Dans le Gers, le principal suspect dans la disparition de la jeune Liliana a été mis en examen pour enlèvement et séquestration, puis placé en détention provisoire. La Haute-Garonne expérimente l'utilisation de lait de chaux pour protéger durablement les routes contre les effets des fortes chaleurs. À Lourdes, l'espace de sensibilisation au risque sismique a été modernisé pour mieux informer le public sur les séismes qui touchent régulièrement les Pyrénées. Les bouchons feront leur retour dimanche à Villefranche-de-Rouergue avec des centaines de véhicules anciens et des animations d'époque. Et puis à Toulouse, les terrasses font le plein avec le retour du soleil et marquent le début d'une saison estivale qui s'annonce dynamique pour les professionnels de la restauration dans la région.
Merci Sacha Boudet-Pouplier, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve à 12h30 pour développer ses titres dans le journal. Dans un instant, direction Bayonne pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron avec la responsable de la communication. Je serai en ligne dans 3 minutes avec Nathalie Chambon.
Came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes is in stay. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. And mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you.
Radio Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Bonjour Nathalie Chambon.
Bonjour Gilles.
C'est depuis Bayonne qu'on vous retrouve pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. Et on commence cet agenda avec cette conférence sur le thème « La force cachée de nos fragilités ». Ça va se passer ce soir à 20h30.
Tout à fait, c'est donc à la Maison diocésaine Saint-François-Xavier à Pau. Une conférence par donc Vincent-Joseph Soulier qui est gestalt thérapeute. Donc je vous conseille de réserver néanmoins sur le site Eloasso, mais l'entrée est libre ce soir, jeudi 4 juin à 20h30 à la Maison Dio à Pau.
On poursuit avec l'actualité de la communauté des béatitudes de Naye.
Oui, comme tous les premiers vendredis du mois, la communauté des béatitudes vous invite à sa soirée Open Shabbat. La prière du Shabbat commence à 19h, mais elle demande avant pour avoir une explication préalable, donc qui est indispensable pour bien prier avec le peuple juif en ce veille de Shabbat. Donc venez dès 18h15 à la communauté des béatitudes. Vu qu'il y a un dîner partagé, la communauté vous demande de vous inscrire par mail. Toutes les infos sur le site du diocèse, diocèse64.org.
Direction le monastère d'Urte avec les samedis bibliques. Alors c'est un samedi par mois.
Oui, tout à fait. Donc c'est cette formation qui est proposée au monastère des Bénédictines à Urte autour de Yann Quincampoix qui est bibliste. C'est toujours un petit peu le même schéma avec des prières, temps de prière, échange fraternel, messe et un petit repas tiré du sac. N'oubliez pas votre pique-nique, c'est entre 9h30 et 16h30 au monastère Sainte-Scolastique à Urte.
On poursuit avec ce samedi 6 juin, cette marche pour Jésus à Pau.
Oui, tout à fait. Si vous avez plus envie de vous dégourdir les jambes, venez donc marcher pour Jésus et témoigner ensemble de notre foi en Jésus à Pau. Cette marche aura lieu donc qu'à partir de 14h30, rendez-vous place de Verdun. Elle se terminera par un concert de louanges à 17h30 au parc Laurence. L'année dernière, il y avait 400 personnes, donc il faut être plus cette année. Il y aura également plusieurs villes de France qui sont concernées, notamment Paris. Mais nous, pour Pau, c'est donc ce samedi à 14h30, place de Verdun.
On poursuit avec ce concert qui est proposé à la cathédrale Sainte-Marie de Laurent. Concert ce samedi 6 juin avec plusieurs choristes du département.
Tout à fait. Donc c'est un collectif Choralliance qui réunit 70 choristes de 3 chorales différentes. Et donc il vous propose la Misa Tango. C'est une œuvre d'un compositeur argentin qui est une mise en musique de la messe en latin. N'hésitez pas, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et puis, les infos sont sur le site du diocèse. C'est donc à la cathédrale Sainte-Marie-d'Oloron à 20h30.
Voilà, samedi 6 juin. Autre proposition de concert, la direction l'agglomération paloise à Bizanos avec du gospel au programme ce samedi.
Tout à fait, à l'église Sainte-Magne, c'est également à 20h30, c'est également gratuit pour les moins de 12 ans. Si vous préférez le gospel au classique, eh bien c'est à Bizanos qu'il faut aller ce samedi 6 juin.
Ce dimanche, c'est la fête Dieu et c'est une journée spirituelle qui est proposée avec la communauté des Béatitudes de Naïa.
Oui, tout à fait. Cette journée qui démarrera donc à 10h30 par la messe. Puis ensuite, il y aura un petit temps de procession vers la communauté. La messe est à la paroisse de Naï et non pas à la communauté des Béatitudes. Et il y a donc ensuite un repas tiré du sac, un temps d'enseignement, bien sûr, et l'exposition du Saint-Sacrement avec un temps d'adoration animé. Donc, je vous rappelle, cette belle fête Dieu, fête du corps et du sang du Christ. Donc, toute la journée du dimanche 7 juin à la communauté des Béatitudes de Naï.
Autre procession du Saint-Sacrement, c'est à Pau que ça va se passer, toujours ce dimanche évidemment.
Oui, donc la messe à 18h30 à l'église Sainte-Thérèse, qui sera présidée par Monseigneur Ayen, notre évêque. Puis ensuite, une grande procession dans les rues de Pau, par les allées de Morlas. Donc je vous invite à retrouver donc à la messe à Sainte-Bernadette à 18h30. Et ensuite, suivre cette belle procession accompagnée par notre évêque pour bien effectivement suivre le Saint-Sacrement et témoigner de notre foi dans le corps et le sang du Christ pour notre belle procession de la fête Dieu à Pau.
Voilà un aperçu de l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescarré-Oloron, l'agenda béarnais, diocèse64.org. Eh bien, ce site internet vous permet de retrouver plus globalement tous les événements du diocèse. Et c'est là-dessus que je vais vous remercier, Nathalie Chambon. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication pour ce diocèse. Et on vous souhaite une excellente fin de semaine du côté de Bayonne, à côté de la cathédrale.
Oui, merci beaucoup Gilles. En plus avec le soleil, c'est
exactement
parfait.
Une bonne fin de semaine.
Merci, vous aussi, bonne fin de semaine, au revoir.
On était quelques hommes, quelques femmes, rêvant de liberté.
On n'était pas à vendre, mais on pouvait revendre des montagnes d'amitié.
Le cœur en bandoulière, et les bras grands ouverts à tous les étrangers.
On n'avait pas de peur, on sentait la chaleur qu'on savait se donner.
Jamais tombé,
même au milieu des chimères, on y croyait plus fort quand le courage manquait.
Pour vous, mes compagnons, mes amis de jeunesse, quelles que soient vos histoires, n'oubliez jamais qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse. Reste qu'un, nous serons ce dernier.
On était plein d'ardeur et l'on sortait vainqueur de nos pauvres blessures.
Quand les pleurs étaient lourds, on se trouvait toujours une voix qui nous rassure.
On avait tant d'envie qu'on voyait notre vie comme une belle aventure.
On n'avait pas de maître, La seule à nous soumettre était la mère nature.
Même au fin fond du désert, on aidait les plus faibles, quitte à y rester.
Même au milieu des chimères, on y croyait plus fort quand le courage manquait. Oh, vous mes compagnons, mes amis de jeunesse, quelles que soient vos histoires, on n'oublie jamais qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse. S'il n'en reste qu'un, nous serons ce dernier.
Même au fin fond du désert,
on aidait les plus faibles à ne jamais tomber. Même au milieu des chimères,
on y croyait plus fort quand le courage manquait.
Oh, vous mes compagnons, mes amis de jeunesse, quelle que soit mon histoire, non, je n'oublie jamais. Et aujourd'hui encore, je refais la promesse. S'il n'en reste qu'un, nous serons ce dernier. Compagnons, mes amis de jeunesse,
quelles que soient vos histoires, ne m'oubliez jamais.
Et si un jour je tombe, faites-moi cette promesse.
S'il n'en reste qu'un, vous serez ce dernier.
Jean-Jacques Goldman en duo avec Grégoire à l'instant. À suivre dans quelques minutes, le journal régional à partir de 12h30. Pour le moment, la suite de Présence Midi, ici avec Anne-Rose Jankovic.
Présence à Luchon, 94 FM.
Mercredi 3 juin, l'hôpital de proximité L'Aigrotte à Tarbes organisait une journée portes ouvertes, un événement porté par l'établissement avec le département des Hautes-Pyrénées et l'agence régionale de santé en présence de monsieur le préfet Jean Salomon. Objectif, valoriser et faire découvrir au plus large public possible les métiers de l'accompagnement et du soin afin de renforcer l'attractivité des établissements et services du territoire. La journée s'articulait autour d'échanges associant présentation des métiers, témoignages de professionnels, animation thématique et temps d'information. Étaient mobilisés et invités des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion, des élèves, des collèges, des lycées, des étudiants, des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion professionnelle. Il faut quand même souligner que cette journée se déroulait dans un contexte particulier puisque l'hôpital de L'Aigrotte vient d'interrompre temporairement les admissions au sein du service médical de réadaptation faute de moyens humains. Il paraît donc absolument urgent de susciter l'intérêt du plus grand nombre pour les carrières médicales et médico-sociales afin de pallier précisément le manque de professionnels. C'est en tout cas ce qui a motivé Hervé Dustenberger. Il est chef de projet des métiers sur l'attractivité de l'accompagnement et du soin. C'est lui qui a préparé cette journée.
Mon objectif, c'est de valoriser, faire connaître les métiers pour attirer le plus de monde possible dans ces secteurs.
Donc c'est vous qui organisez aujourd'hui cette journée à l'hôpital L'Aigrotte en plein centre-ville de Tarbes, peut-on dire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message? On a vu que le public que vous accueillez est large, mais il y a probablement des jeunes particulièrement qui sont ciblés. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces jeunes?
Alors le public est varié, ce sont des jeunes, ça va être les collèges, les lycées, les demandeurs d'emploi, les missions locales, les 16-25 ans, du public en reconversion professionnelle. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il y a du travail. C'est des métiers qui recrutent dans le secteur social, médico-social et sanitaire. On est sur des métiers qui ont du sens, qui sont centrés sur l'humain. Beaucoup d'établissements recrutent sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Et c'est vrai que j'aurais envie de leur dire que ce sont des métiers aujourd'hui qui ont du sens et on recherche ce type de public. Se former, c'est facile sur Tarbes. Il y a des organismes de formation, il y a de nombreux lieux et il y a de nombreuses formations qui les attendent. Donc, à bras ouverts, on attend vraiment du monde.
Donc, tout au long de la journée, ces jeunes et tout le public qui va venir peuvent rencontrer différents acteurs. Ce qui est important de dire, c'est que ce sont les métiers du soin et de l'accompagnement. Il ne s'agit pas juste de poser un acte technique et médical, hein. c'est pas seulement ça, prendre soin des personnes âgées.
Alors, ça en fait partie, mais nous, on se centre spécifiquement sur les métiers de l'accompagnement et du soin, aide-soignant, infirmier, ergothérapeute, accompagnant éducatif et social, donc AES, et autres métiers. Donc, je présente les ambassadeurs métiers qui, eux, vont présenter leur parcours, leur motivation, comment ils ont fait pour réussir à rentrer dans ces métiers et pourquoi ils sont là aujourd'hui et qu'est-ce qui les anime et qu'est-ce qui les fait lever le matin.
Il y a combien d'acteurs là, qui sont, et de partenaires qui sont présents aujourd'hui pour cette journée?
Alors aujourd'hui, nous avons 13 partenaires donc de l'emploi, de la formation et de l'insertion. On a donc France Travail, bien sûr, la région pour les formations et tous les organismes de formation comme IFMS, l'IFAS de Lannemezan, le Greta, Inkipit, l'AFPA. Et on a aussi WeMove sur la mobilité, on a aussi la mission locale et on a aussi les aides à domicile qui expliquent leur métier, donc d'aide à domicile. Donc là aussi, on a des professionnels. Et moi, je vais présenter 13 professionnels de l'Aiguerotte et d'ailleurs sur l'accompagnement. Donc on est vraiment sur des métiers très larges, hors médecin.
Voilà, et les jeunes peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent à tous ces professionnels.
Tout à fait, et c'est l'objectif de la journée, c'est de venir avec des projets, des questions, et aussi ouvrir leurs horizons, et de dire que la possibilité, ben, il y en a plein, il y a beaucoup d'orientations possibles, et on découvre, parce qu'on n'imagine pas le nombre de métiers qui existent dans ces secteurs. Et cette journée permet de découvrir l'éventail des métiers. Vous savez que dans un EHPAD, il y a plus de 24 métiers qui sont exercés, et c'est vrai que là, aujourd'hui, on ne le sait pas, et des métiers qui sont attractifs les uns et les autres, mais surtout dans le soin et l'accompagnement.
Quelles compétences et quelles qualités humaines il faut en particulier pour travailler dans ces métiers du soin et de l'accompagnement?
Alors les qualités essentielles, on parle de soft skills, c'est les capacités comportementales, de la bienveillance, de la communication, du respect, de l'organisation et surtout le savoir travailler en groupe, ça c'est aussi très important. Et en même temps c'est de l'assurance parce que l'objectif c'est de savoir ce que l'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait dans le secteur de l'humain.
J'ai une dernière question. Cette journée, vous l'organisez dans un contexte, alors pour l'hôpital Aiguerotte, un contexte un peu de crise, hein, puisque il y a un service d'admission qui a été obligé de fermer faute de moyens humains. Et puis le contexte un peu de crise générale pour le monde de la santé. Hein, en fait, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on entende que l'hôpital est en crise, qu'il manque de médecins, etc. C'est audacieux de proposer une journée comme celle-ci dans ce contexte-là.
Alors vous dites c'est audacieux, et c'est justement parce que c'est audacieux que nous l'avons fait et que l'objectif de le faire sur Tarbes, centre-ville, permet de découvrir l'endroit. C'est un lieu en immersion, donc on est en mode immersif. Et l'objectif, nous, on est sur l'attractivité des métiers. Et quand on parle d'attractivité, c'est donner envie de venir travailler dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Il y a du travail, beaucoup de travail, et les formations attendent et vous attendent. Et je crois que là, c'est un métier qui a de l'avenir. Donc, des lieux aujourd'hui ouverts comme ça, je pense qu'on devrait en avoir beaucoup plus. Et on est content, l'Aiguerotte, l'hôpital de proximité, de l'ouvrir au grand public pour faire découvrir tous ces métiers.
Hervé Dustenberger, chef de projet des métiers sur l'attractivité de l'accompagnement et du soin. Autrement dit, accompagner les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie physique et ou cognitive, c'est tout simplement prendre soin de l'autre. Et cette perspective-là, en plus d'avoir du sens, elle a de l'avenir. C'est en tout cas le message passé hier par Pascal Clavry aux participants de la journée. Le maire de Tarbes qui a lâché son meilleur argument. Dans la ville-préfecture des Hautes-Pyrénées, on compte 14 000 seniors de plus de 60 ans et 17 000 jeunes de moins de 30 ans. Il y a donc moyen de se retrousser les manches pour que les uns prennent soin des autres.
Et merci à Anne-Rose Jankovic, Anne-Rose qui reste avec nous puisqu'on la retrouve dans un instant direction Ibos près de Tarbes puisque les 29 et 30 mai derniers, deux jours de festivités ont été organisés autour de la culture occitane. On en parle dans quelques minutes avec elle et dans un instant également c'est l'actualité régionale qui est de retour avec le journal régional.
Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver.
Ça vous de Zagazan à l'instant avec la symphonie des éclairs. Quasiment 12h30 sur les pendules de Radio Présence. Voici le journal régional présenté par Sacha Boudet-Poublier, étudiant au sein de l'ISGT.
Bonjour à tous. Le président de la FNSEA était en déplacement dans le Tarn-et-Garonne et on peut dire qu'il n'a pas mâché ses mots. Arnaud Rousseau a vivement critiqué certaines déclarations du gouvernement concernant la situation agricole. Le responsable syndical rappelle que plus de la moitié des exploitations françaises vivraient avec moins de 500 euros par mois et appelle à des mesures concrètes pour soutenir les agriculteurs. Une prise de parole qui intervient alors que tout le monde agricole continue de faire face à des difficultés économiques, climatiques, mais aussi réglementaires. L'enquête se poursuit dans le Gers après la disparition de la jeune Liana. Le principal suspect, un homme de 41 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration avant d'être placé en détention provisoire. L'homme nommé Jérôme B. avait été visé par une plainte pour viol sur une mineure début août 2025. Il a souhaité garder le silence devant la juge. Malgré cette avancée judiciaire, la présomption d'innocence s'applique toujours et les recherches continuent afin de retrouver l'adolescent. Le conseil départemental de Haute-Garonne, expérimente une nouvelle technique pour mieux protéger les routes face aux épisodes de chaleur de plus en plus fréquents. Du lait de chaux est désormais utilisé sur certaines chaussées afin de limiter leur montée en température et de ralentir leur dégradation. Une innovation présentée comme une réponse concrète aux effets du réchauffement climatique sur les infrastructures routières. À Lourdes, l'espace dédié à la sensibilisation aux risques sismiques fait peau neuve. Ce site unique en France permet au public de mieux comprendre les tremblements de terre qui touchent régulièrement les Pyrénées, où plus de 1500 séismes sont enregistrés chaque année. Le nouveau aménagement doit permettre d'accueillir davantage de visiteurs et de renforcer les actions de prévention. À Villefranche de Rouergue, les célèbres bouchons feront leur retour dimanche. Cette manifestation populaire replonge la ville dans l'ambiance des grands départs en vacances des années 1950 et 1960, avec voitures anciennes, costumes d'époque et animations dans les rues. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition. Et puis pour finir ce flash, c'est le retour des terrasses dans la ville rose. Ces dernières ont retrouvé leur sens de la fête avec le retour des beaux jours. Cafés, restaurants et établissements du centre-ville enregistrent une fréquentation en hausse depuis environ 3 semaines. Un regain d'activité bienvenu pour les professionnels du secteur qui profitent pleinement de l'arrivée de la saison estivale en espérant que ça dure. dur.
Eh oui, merci Sacha Boudet Pouplier, voilà, qui est avec nous et qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Retour de l'info à 13h, eh bien, avec la rédaction française de Radio Vatican pour l'actualité nationale et internationale. Dans un instant, direction le département des Hautes-Pyrénées, puisqu'il y a quelques jours, les 29 et 30 mai dernier, à côté de Tarbes, à Ibos, eh bien, deux journées de festivités ont été organisées autour de la culture occitane. Sur place, il y avait Androse Jankovic. Son reportage est à écouter dans deux minutes.
Présence à Auch, 89.6.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcast de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Les 29 et 30 mai dernier, le CDMDT 65, le Centre départemental de musique et danse traditionnelle des Hautes-Pyrénées, organisait deux jours de festival en l'honneur de la culture occitane. Ça se passait à Ibos, près de Tarbes, là où le CDMDT est installé depuis 2018. Deux jours de festival rendus possibles grâce au travail de Régis Latapie, qui anime toute l'année l'atelier de chant polyphonique au CDMDT. Pour l'événement, il était entouré de 25 bénévoles et de 100 musiciens, instrumentistes et chanteurs. Au cœur du programme, un concert en la collégiale d'Ibos le samedi. Quelques minutes avant l'arrivée du public, je suis allée à la rencontre des artistes bigourdans. Régis Latapie.
Alors, c'est un festival qui est en deux temps. Ça commence déjà par le vendredi, par la journée Eddy et Detsmainat. Donc, c'est le jour des enfants qui est en temps scolaire et qui est proposé aux écoles publiques ou privées du département et d'ailleurs. Voilà, et le deuxième temps, en fait, c'est Terre Trad qui a été créé il y a à peu près 5 ans, qui est dédié à la découverte aussi, de la culture occitane gasconne, au travers des instruments, de la voix et de la danse.
Donc l'objectif, c'est vraiment la transmission. Il y a un objectif pédagogique et peut-être aussi un objectif de promouvoir la culture locale.
Tout à fait, oui. Promouvoir et continuer à soutenir et valoriser aussi la création, en fait, autour de cette musique et de cette langue, qui est la langue occitane gasconne. Alors vraiment, on attend vraiment tous les publics qui veulent venir pratiquer, ceux qui pratiquent déjà ou ceux qui ont envie de découvrir. Vraiment, au CDMDT 65, la porte, elle est toujours ouverte, en fait, pour que les gens viennent passer un bon moment, en tout cas. Aujourd'hui, on en a besoin, passer des bons moments. Oui. Et aussi, il y a plusieurs facettes dans la journée, puisqu'on va présenter un concert à la collégiale, où on va chanter des chants en polyphonie, tels qu'ils se chantent sur le territoire, ou sur le territoire pyrénéen. Et il y a aussi du chant à danser, ou des musiques à danser. Donc la culture musicale occitane gasconne, il y a vraiment, vraiment plusieurs facettes. Donc je pense qu'il y en a pour tout le monde et tout le monde peut arriver à trouver musique à son pied, on va dire.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un patrimoine qui est vivant, un patrimoine dont les bigourdans se sont emparés et dont ils prennent soin? Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce qu'il y a encore du boulot?
Mais je pense qu'il faut... Déjà, ça a toujours été présent sur le territoire avec plus ou moins d'intensité. Ouais. Mais on sent aujourd'hui qu'il y a quand même, les gens ont envie de revenir vers le terroir, un peu comme tous nos bons produits culinaires. Ouais. Il y a des bons produits musicaux. Voilà.
Peut-être détailler un petit peu le programme là, du concert, parce qu'il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Ils sont tous élèves du CDMDT 65, donc c'est toute l'année, ils s'entraînent avec vous. Présentez-nous un petit peu à quoi s'attendre avant ce concert.
Alors s'entraîner, je n'irai pas jusqu'à là, mais plutôt prendre du plaisir à jouer de la musique et surtout de faire de la musique ensemble, en fait.
Ils ne sont pas forcément musiciens.
Alors tout dépend, qu'est-ce que c'est que la définition de musicien?
Je savais que cette question allait vous titiller.
Mais en tout cas, la promotion de cette musique traditionnelle, on valorise essentiellement la musique par transmission orale. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lire une partition pour venir apprendre à jouer au CDMDT. Et je précise, et dans d'autres structures aussi du département qui font du super boulot. Vraiment aujourd'hui, il y a vraiment toutes les générations qui sont là, en fait. Ouais. Donc ça passe par des enfants qui ont 7-8 ans et qui commencent à prendre des instruments. Ils vont jouer avec les adultes, même si tout n'est pas parfait. Ouais. Le principal, c'est de jouer ensemble. Et il y a des ados aussi qui vont chanter en polyphonie à 4. Ça va continuer avec des adultes qui vont chanter aussi en polyphonie. Un groupe de filles qui s'appelle Espélide. Ouais. un groupe de 8 filles. Et ensuite, il y aura aussi les ateliers d'accordéon diatonique, des violons, des flûtes et des tambourins à cordes. Il y a la cornemuse aussi qui est là, présente.
La cornemuse, c'est un instrument traditionnel de la Bigorre.
De Gascogne, on va dire.
De Gascogne.
C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas vraiment figé sur la Bigorre, parce que les choses qui se pratiquent en Bigorre, ça se pratique aussi en Gascogne. Voilà.
Vous dites qu'il ne faut pas forcément être musicien, mais, et puis il y a quand même beaucoup de musique, mais il faut parler occitan. Et la langue occitane aujourd'hui, alors si on va à la STIA de Bigorre qui a lieu à Ibos tous les ans, on entend parler occitan, mais enfin quand même ce public-là qui vient au CDMDT, il est bilingue, il pratique l'occitan comme ça facilement. Il y a quand même une prononciation qui est particulière, ça c'est un travail, c'est un apprentissage particulier, l'apprentissage de la langue occitane.
Mais la langue occitane, oui, elle est présente sur le territoire. Après, on l'écoute ou on l'écoute pas, ou on la regarde ou on la regarde pas. Mais elle est présente, en fait. On peut observer des noms de rues, des noms de quartiers. Mmh. La langue, elle est là. Et même dans notre parler de tous les jours, on a même des expressions qui sont là. Mais c'est sûr que cette langue, sans qu'on s'en rende compte, elle est là. Et la langue, on la travaille souvent. Enfin, ce qui me concerne, c'est au travers de la polyphonie et du chant. Donc on utilise, oui, cette langue pour faire sonner la polyphonie.
Est-ce que vous militez, vous, pour que dans les écoles de Bigorre et dans nos vallées, eh bien, cette langue elle soit plus ou mieux transmise aux élèves? Parce que pour l'instant, ça existe, mais ça existe dans quelques lieux qui sont quand même pas très nombreux.
Alors, je milite, surtout, ce que je me dis, c'est que cette langue, en fait, elle est présente sur le territoire. Et c'est pas moi qui veux, c'est l'État qui a mis en place un dispositif pour qu'on puisse installer des écoles bilingues dans les écoles du département. Donc c'est le gouvernement et l'État français, il y a des lois qui sont faites pour ça, c'est tout. Après j'envoie juste un message aux élus locaux de regarder la culture locale, en fait, et qu'elle est là, et que la langue elle est présente, et qu'on a le droit de l'offrir aux enfants du territoire. Après ils en feront ce qu'ils en voudront, mais au moins durant la scolarité qu'ils puissent y avoir accès.
Merci beaucoup, bon festival.
Adichat.
Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 13 ans et je chante dans le groupe Las Lubes.
Depuis combien de temps tu chantes?
Ça fait 3 ou 4 ans.
Dans ce groupe qui ne chante qu'en occitan?
Des fois en français aussi.
Alors ça veut dire que tu as appris l'occitan petite?
Oui, à la maison, au collège, en section bilingue.
Ça veut dire que chez vous, vous parlez et français et occitan. C'est oui, pour toi, c'est la vie de tous les jours de parler occitan?
Non, c'est pas la vie de tous les jours, mais des fois avec mon grand-père, on parle occitan. C'est lui qui m'a appris à parler occitan. Et voilà.
Et pour toi, c'est important, ça?
Bah oui, quand même. Parce que c'est la langue de la région. Pas que de la région, mais...
Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Alors j'imagine qu'autour de toi, au collège, en famille, avec tes amis, tu as des jeunes de ton âge qui ne parlent pas du tout la langue. Qu'est-ce que toi, tu as envie de leur transmettre et de leur montrer quand ils savent que tu parles en occitan? Qu'est-ce qu'ils te posent comme question et qu'est-ce que toi, tu as envie de leur dire?
Mais que c'est pas parce que c'est une langue étrangère, comme il y en a qui disent, qu'on ne peut pas l'apprendre.
Est-ce que c'est une langue qui est difficile à apprendre? Toi, tu l'entends depuis que tu es toute petite, mais est-ce que c'est une langue qui demande du travail?
Ben, un petit peu quand même, parce qu'il y a des conjugaisons quand même. Ben, c'est quand même l'espagnol, mais sauf que c'est l'occitan.
Bon, là, vous êtes un groupe de copines qui chantaient ensemble en occitan. Vous êtes combien dans le groupe?
On est 4.
Et vous vous rassemblez toutes les semaines pour répéter?
Non, maintenant, on n'a plus trop... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le temps. Enfin, si on n'a pas le temps, ça dépend. Vu qu'on n'est pas dans la même classe, etc., c'est plus dur de chanter, mais à peu près une fois par mois ou un peu plus.
Qu'est-ce que ça raconte, vos chants en occitan, en bigourdan? Qu'est-ce que vous racontez comme histoire?
Il y a beaucoup de chants, c'est des chants d'amour, de bergers, religieux, des légendes, la défense de la langue.
La demoiselle à côté, tu veux parler aussi? D'abord, comment tu t'appelles?
Je m'appelle Lou, j'ai 15 ans. Et je parle parce que tout d'abord, c'est mes parents, ils m'ont inscrite quand j'étais petite à l'école.
T'es dans une école bilingue?
Oui, depuis la maternelle, j'ai continué au primaire et du coup j'ai continué aussi au collège. Et bon, ça fait longtemps que je parle du coup.
Donc pour toi c'est naturel de parler occitan?
Pas naturel comme je parle le français, mais quelque chose d'assez facile.
Et c'est quelque chose qui te plaît, enfin je veux dire, t'en es fière?
Oui, absolument. Tout d'abord, je pense qu'il est important, c'est quand même beaucoup de sourire et de voir que même si on se trompe, c'est pas très grave et il faut quand même avancer et toujours prendre rigoler à la rigolade et sourire. Et que même si on ne comprend pas forcément cette langue, je pense que c'est important de même d'écouter, même si on ne comprend pas.
Partager la langue, montrer que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas occitan qu'on ne peut pas chanter. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, qui font des stages, qui ne savent pas chanter occitan, mais ils arrivent à parler occitan, mais ils arrivent très bien à chanter en occitan.
Alors ça, c'est important, parce que quelquefois, en Bigorre, on dit, bon, la langue occitane, le bigourdan, c'est réservé à ceux qui sont, à ceux qui sont du pays, à ceux qui sont d'ici. Toi, tu nous dis, en fait, tout le monde peut apprendre et tout le monde peut s'y mettre, quoi.
Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde.
Cet entretien avec les artistes bigourdans a été enregistré quelques minutes avant le concert en la collégiale d'Ibos samedi 30 mai dernier. Notez que le CDMDT propose des cours et des stages tout au long de l'année. Pour rejoindre les plus de 300 élèves, rendez-vous sur le site cdmdt65.fr.
Radio Présence dans le Luchonnais. 94 FM.
Et merci Anne-Rose Jankovic qui a réalisé ce reportage il y a quelques jours à Ibos, près de Tarbes. C'était les 29 et 30 mai dernier. Et Anne-Rose, on la retrouve maintenant en direct puisqu'elle n'est pas en studio, mais elle est du côté de Tarbes. Bonjour Anne-Rose Jankovic, rebonjour.
Bonjour, bonjour Gilles, bonjour à tous.
Alors, expliquez-nous pourquoi vous n'êtes pas en studio, mais aujourd'hui à Tarbes.
Eh oui, je me trouve à Tarbes où c'est aujourd'hui la 4e édition du Salon des communes et des intercommunalités. C'est un événement qui est mené par Viviane Artigalas, notre sénatrice, qui est aussi présidente de l'AMF 65, l'Association des maires des Hautes-Pyrénées. Pour cette 4e édition, Viviane Artigalas a voulu avoir une invitée de marque, puisque depuis ce matin, eh bien, c'est madame la ministre de l'Aménagement des Territoires et de la Décentralisation, Françoise Gatel, qui est présente à Tarbes. Madame la ministre qui a d'abord visité le centre-ville de Tarbes, et en particulier une bâtisse très ancienne qui est rue Brohoban et qui est en cours de rénovation avec la création de 12 logements, avec bien sûr derrière toutes les questions de l'emploi, la question de faire travailler des artisans locaux, etc. Tout cela était au cœur de cette visite d'Antam avec cette préoccupation, Action Cœur de Ville. Cette visite de Madame la Ministre en ville avait lieu avec, bien sûr, le maire de Tarbes, Monsieur le Préfet également. Et puis, Madame la Ministre s'est rendue donc au salon où elle se trouve encore. Elle est en ce moment même en train de donner son discours. Vous savez, quand il y a des événements comme ça, il y a toujours le moment des discours. Alors, on a pu déjà entendre le président Pellieu, président du département, qui a loué le bon sens et le pragmatisme de Madame la Ministre, mais qui l'a quand même interpellé assez clairement sur l'urgence de repenser les lois liées à l'aménagement du territoire. Vous savez qu'en la matière, Michel Pellieu, il milite pour que tout ne soit pas décidé à Paris, mais que, eh bien, il y ait des décisions qui soient un petit peu laissées, en tous les cas, laisser un peu de champ d'action pour les élus et les responsables locaux. Alors, le message a été clairement dit par Michel Pellieu. Madame la ministre, qui a elle-même été maire pendant 17 ans, a visiblement bien reçu ce message et elle est en train, en ce moment même, dans son discours, eh bien, de donner des éléments de réponse. Voilà. On y reviendra la semaine prochaine, si vous voulez bien, avec plus de détails donc sur cette 4e édition du Salon des communes et des intercommunalités, avec cette visite donc de Françoise Gatel, ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, qui est donc à Tarbes depuis ce matin et jusqu'à ce début d'après-midi.
Voilà, reportage à écouter la semaine prochaine. Un grand merci Anne-Rose Jankovic. On vous laisse donc regagner la salle pour les discours. Reportage à ne pas manquer donc la semaine prochaine.
Exactement. Je serai au rendez-vous mardi dans l'émission de midi à 13h pour vous raconter tout cela en détail.
Merci Anne-Rose et très belle journée donc à Tarbes.
Merci.
Dans un instant, c'est Anne Lasserre et le regard des écrivains sur les Pyrénées.
To watch.
Michael Field à l'instant dans Présence Midi. Dans moins d'un quart d'heure, l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican. Ce sera à partir de 13h. Pour le moment, on prend un peu d'altitude et de fraîcheur avec Anne Lasserre, le regard des écrivains sur les Pyrénées. Elle a décidé de nous parler de la sélection des co-moteurs cette semaine, le duc de Montpensier.
Radio Présence à Luchon, 94 FM.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. C'est les auteurs, c'est la littérature qui est au service des Pyrénées, hein, grâce à vous. Merci beaucoup Anne Lasserre d'être là. Alors la semaine dernière, nous étions en compagnie d'un tout jeune voyageur qui était tout heureux d'avoir vu le duc de Montpensier à Barège. Et aujourd'hui, vous nous ameniez gravir le pic du Midi d'Ossau avec toujours le duc de Montpensier.
C'est vrai, car en août 1843, le duc de Montpensier séjourne aussi aux Aubonnes, avant de se rendre à Pau, où l'on doit inaugurer la statue d'Henri IV, le Béarnais.
Louloustéric, on l'appelait. Henri IV, le bon roi Henri IV.
Oui.
La prononciation des Béarnais, les Palois l'appelaient Louloustéric. C'est l'époque où l'on parcourt les Pyrénées à cheval et le duc de Montpensier se révèle un infatigable cavalier.
Et aussi un bon grimpeur, à en croire celui qui participe à l'ascension du pic du Midi d'Ossau et en fait le récit. Ouais. Pas notre évident, auteur hein. Souffre.
Ouais, c'est pas évident. Et celui-là, il monte aussi le pic du Midi d'Ossau. Hein. Il est accompagné par le préfet, par le général Janin et par une douzaine de baigneurs et des touristes et par plusieurs guides également. Hein.
Oui, en règle générale, les ascensions se faisaient...
À la grâce du guide. Hein.
Oui, et en grand nombre dès qu'il s'agissait d'un personnage princier ou royal.
On vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
En août 1843, le duc de Montpensier, fils cadet du roi Louis-Philippe Ier, se rend dans les Pyrénées pour inaugurer la statue du roi Henri IV à Pau. Auparavant, il fait l'ascension du pic du Midi d'Ossau. L'ascension au pic du Midi de Pau est-elle presque impraticable? Est-elle hérissée de tels dangers, de difficultés si terribles qu'il soit imprudent de l'entreprendre? Ou bien, comme l'ont prétendu quelques touristes fanfarons, de vraies tranches montagnes, n'est-elle qu'une course longue et pénible qui n'offre pas de péril? D'aujourd'hui, cette question est résolue pour moi. Il ne me reste plus d'incertitude sur ce sujet. Je l'ai faite et ne la recommencerai plus. Je vais plus loin. Si je n'avais eu pour m'encourager l'exemple d'un des fils du roi qu'un bon Français n'abandonne jamais, j'aurais à moitié chemin quitté la partie. Oui, je l'avoue, sans cette fausse honte chez tous mobiles puissants, sans ce sentiment qui me poussait à suivre mon intrépide compagnon qui gaiement me montrait, me frayait la route, je serais revenu sur mes pas. Que mes lecteurs me croient donc et qu'ils se persuadent bien que cette ascension n'est pas un jeu d'enfant, mais un exercice de géant. En fait d'excursion, c'est un vrai morceau de roi. Maintenant que vous et moi savons à quoi nous en tenir, laissez-moi vous donner quelques détails sur l'ascension au pic que nous avons hier exécuté, heureusement, sous la conduite et en compagnie de Monseigneur le duc de Montpensier. Le 24, à 5 heures du matin, nous quittions Bonne à cheval. Devant nous marchaient en éclaireur 5 guides, 3 du pays, 2 venus des Hautes-Pyrénées avec le prince. Au bas de la côte, 5 guides de la Reims demandèrent à son Altesse la permission de l'accompagner et ils se réunirent à leurs confrères de Bonne. Entre l'avant-garde et le corps d'armée s'avançait, superbe dans sa beauté sauvage, Gaston Sacaze, qui montait sur son cheval noir à tout crin, sans étrier, avec un simple filet, ressemblait à un cavalier numide. À côté du duc de Montpensier se tenait le préfet, le général Janin. Ensuite, nous venions, nous autres baigneurs et touristes, au nombre de 12. Son Altesse Royale, voulant faire la tournée complète, avait refusé d'aller à Gabas en voiture et parti au petit galop de chasse. Nous y arrivions en 2 heures sans nous être arrêtés et marchant toujours du même train. Là, vous le savez, nous quittons la grande route et commençons à nous engager dans la montagne. Il fallut bien alors ralentir l'allure de nos chevaux et au bout de 3 heures, nous arrivions au pied du pic. Lorsque nous eûmes tous mis pied à terre, le prince nous engagea avec la plus cordiale amabilité à partager avec lui un morceau sur le pouce. L'air du matin, 5 heures déjà passées à cheval, sans un instant de repos, nous avait disposés à faire honneur à une cantine bien fournie que 2 mulets avaient apportée à l'avance. Toutefois, Gaston et les guides nous donnèrent le sage conseil de ne faire que nous lester légèrement. Mais le rhum ne charge pas et donne des forces. Aussi en acceptâmes nous tous un verre offert par le prince, qui, prenant l'initiative d'un toast que nous voulions porter, but au succès de notre voyage. Après cette courte halte, nous faisions nos adieux à 5 ou 6 sages qui, se défiant de leurs forces, voulurent en rester là. Déjà, le jeune prince, précédé d'un guide, ayant près de lui Gaston et Monsieur Loison, gravissait la montagne et nous laissait en riant assez loin derrière lui. Le début n'était ni facile ni commode et donnait une assez triste idée du chemin que nous avions à parcourir. Aussi, Son Altesse s'arrêta-t-elle bientôt pour nous prier de ne point nous fatiguer à l'accompagner. Au bout d'une heure d'ascension, il faut bien l'avouer, assez occupés de nous tirer nous-mêmes d'affaires, nous ne pensions plus au prince confié à nos sollicitudes et qui était toujours en avant de nous que pour tâcher de faire comme lui et de passer par où il passait. Vous dire ce que pendant 2 longues heures et demie employées à gravir du pied du pic et sous un soleil brûlant, nous avons souffert. Ce que nous avons eu de vertige, de faiblesse, combien de fois nous avons été obligés de nous aider de nos pieds, de nos mains, c'est impossible. Si quelque chose devait nous soutenir, nous encourager, c'était la force morale et physique du duc de Montpensier qui riait de nos hésitations, de nos craintes, nous animait de la voix et nous entraînait à l'assaut du pic. Je vous mène de suite au sommet du pic que le prince a escaladé le premier et auquel nous finissons par arriver successivement, haletant, rendu de fatigue, les mains, les genoux meurtris, et saluant notre intrépide chef de file du cri de « Vive le roi !» Il est temps de descendre. Le prince en a donné le signal. Mais avant de quitter ces lieux, Son Altesse Royale permet qu'un procès-verbal improvisé de notre ascension soit dressé afin qu'il reste au sommet du pic d'Ossau un souvenir du passage d'un fils de France. Et au crayon, sur les pages d'un de nos agendas, Monsieur Loison écrit ces mots. Son Altesse Royale, Monseigneur le Duc de Montpensier, est monté au pic du Midi d'Ossau le 24 août 1843. Dieu protège Son Altesse Royale et la famille royale. Ce procès-verbal fut signé par le Duc de Montpensier et par tous les assistants. Mais comment mettre à l'abri des injures du temps ce fragile monument ? Il reste heureusement dans le sac d'un guide une bouteille de vin de champagne. Le prince veut que tout le monde en boive et chacun à son tour puise dans le vase de cuir de Son Altesse Royale ce nectar dépaysé et chacun crie comme lui « Vive la France !» Dans cet abri bien séché, on enferme l'inscription qui pourra ainsi braver le temps et les orages. Sur le chemin du retour, quand ils arrivent à Gabas, le duc de Montpensier, attendu aux eaux chaudes, s'écrie « Messieurs qui m'aiment me suivent !» et il part au galop. En moins d'une demi-heure, dans un nuage de poussière, tous atteignent les eaux chaudes. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage intitulé « Son Altesse Royale, Monseigneur le Duc de Montpensier, dans le département des Basses-Pyrénées, 23-28 août 1843 », ouvrage imprimé à Pau en 1843.
Et voici comment le duc de Montpensier a gravi le pic du Midi d'Ossau. Je vous rappelle, nous sommes en août 1843.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est accompagné par 3 guides des Aubonnes, 2 des Hautes-Pyrénées, et que 5 guides de la Reims demandent eux aussi, Philippe, à faire partie de l'ascension.
Les Pyrénées restent encore des lieux assez effrayants, mais ils étaient aussi prestigieux d'accompagner une personne de sang royal sur les sommets. Je pense que les guides aussi, il y avait une concurrence, il fallait le label.
Ah oui, exactement. Et fait partie de cette course, Gaston Saccaze, un célèbre berger botaniste de la vallée d'Ossau, un autodidacte. C'est lui qui a découvert, par exemple, en 1838, une fleur rare, sorte de gros myosotis, à laquelle on donne justement le nom de Grémil de Gaston.
Et après cette ascension, le duc de Montpensier se rend à Pau, où, sur la place royale, on dévoile en grande pompe la statue du roi Henri IV. Et pour l'occasion, on tire une salve de 21 coups de canon. Voilà, ça c'était une belle inauguration. Hein.
Oui, ça devait être prestigieux.
Ah ben oui, parce qu'on est en 1843, hein, donc il ne faut pas l'oublier. La semaine prochaine, nous partirons dans l'Ariège en compagnie de Jean-Pierre Notté,
voilà. Oui, Jean-Pierre Notté, que j'ai rencontré justement à un salon du livre, Philippe.
Ah, voilà.
Nous en saurons plus la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Anne Lasserre. Très bonne semaine à vous, à la semaine prochaine.
Très bonne semaine à vous aussi, Philippe.
Présence à Cahors 92.5. Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Israël et les États-Unis cherchent à diviser l'Iran alors qu'un accord entre Washington et Téhéran se fait toujours attendre. Le